Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan Large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, on se retrouve, Pierre-André Truffert, pour la deuxième partie de cette émission autour de ce livre, Opération Eclipse, votre premier roman chez Slatkin. Roman, donc, on l'a dit, hein, qui revisite l'histoire de la guerre froide, l'histoire de la moitié hein, du XXe siècle, avec la conquête spatiale dont on va parler maintenant, et puis cet affrontement entre le bloc communiste et les pays occidentaux. On va arriver assez rapidement, parce qu'il y a vraiment deux aspects. Hein. Il y a l'aspect du montage de cette attaque incroyable qui est issue de votre imagination et dont on ne dévoilera pas trop de choses. Et puis, une description alors très précise, très documentée. Vous avez dit que vous êtes devenu un spécialiste des missions Apollo. On le lit hein, dans votre livre. Vous nous décrivez cette mission, la dernière, hein, la dernière mission Apollo. Ça, c'est historique. Apollo 17.
Oui, c'est bien ça, oui. Effectivement, c'est... J'essaye de faire participer le lecteur à cette aventure. On n'a pas souvent l'occasion de faire un voyage sur la Lune. Et là, je le fais vraiment rentrer, le lecteur, dans la fusée. Je l'assieds sur le siège du rover qui roule sur la Lune.
Le rover, c'est le petit véhicule à roues, hein, le petit 4x4, on va dire, voilà.
Tout à fait, la Jeep lunaire, en fait.
Jeep lunaire, ouais. Qui a permis, d'ailleurs, par rapport à la première mission lunaire, hein, c'était la 11, hein, je crois, Apollo, ouais. Neil Armstrong, etc. Eux, ils allaient à pied, hein, donc ils ne pouvaient pas aller très loin de leur module. Et puis, à partir des missions suivantes, on a créé ce petit véhicule qui permettait d'étendre le champ de découverte, en fait.
Oui, c'est sur les trois dernières missions en fait qu'on a eu ce véhicule, Apollo 15, 16 et 17. Dans les missions précédentes, ils allaient effectivement à pied les trois missions précédentes, 11, 12 et 14, puisque 13 a échoué, tout le monde connaît l'aventure d'Apollo 13. Effectivement, ça leur a donné un champ d'exploration beaucoup plus important.
Avec cette épopée, hein, épopée de ce qu'on a appelé la conquête spatiale. Là aussi, on est en plein dans le contexte de la guerre froide. Hein. C'est Kennedy qui, au début des années 60, dit il faut qu'avant la fin de la décennie, on ait marché sur la Lune parce que les Russes ont pris de l'avance.
Oui, tout à fait. Les Russes ont envoyé le premier satellite. Ils ont envoyé aussi le premier homme dans l'espace.
Gagarine.
Les Américains ont eu quelques semaines de retard. un échec dramatique pour eux. Et c'est là que Kennedy a fait cette fameuse déclaration et lancé la course à la Lune. Il avait besoin d'un objectif assez marquant pour effacer les deux premiers échecs. Et puis quand même à un horizon temps un peu plus éloigné pour laisser le temps aux Américains de rattraper leur retard.
C'est un aspect très déterminant de la guerre froide, hein. La communication, il fallait montrer.
Oui, c'est ça. Effectivement, que ce soit dans le sport ou dans les réussites plus scientifiques ouais. Ou les exploits individuels, il y avait vraiment un combat de perception. Il fallait montrer qu'on était le plus fort, il fallait montrer qu'on avait les moyens d'être plus fort que l'ennemi. On rappelle quand même qu'on est dans un contexte où une guerre nucléaire était un scénario qui était tout à fait probable.
Quelques années d'ailleurs avant l'intrigue de votre livre, dans l'intrigue de votre livre, on passe tout près, hein, parce que vous nous dessinez un événement qui amène à une crise majeure mondiale, comme l'a été quelques années plus tôt la crise des missiles à Cuba, où on le regarde avec aujourd'hui, allez, pas du dédain, mais enfin une sorte de tranquillité. Quel stress pour la planète, cette crise de Cuba.
Oui, bien sûr. Il faut s'imaginer qu'aux États-Unis, les pères de famille, le week-end, creusaient des abris anti-atomiques dans leur jardin. Aujourd'hui, ils les utilisent pour se protéger des tornades, mais à l'époque, c'était pour se protéger des missiles soviétiques. La situation était très, très tendue. Les gens avaient vraiment peur d'une guerre nucléaire. Évidemment, le livre joue aussi là-dessus, puisqu'on confronte en fait, le bloc communiste avec les États-Unis par cette attaque.
C'est le phénomène de l'escalade. Hein. On peut le voir encore aujourd'hui hein, avec les crises que nous connaissons dans le monde. L'escalade peut vite arriver. C'est l'histoire de la Première Guerre mondiale. Les alliés qui font leur soutien à leurs alliés, etc. Et tout cela monte en escalade. Il y a un truc intéressant sur la conquête spatiale. J'ai noté une phrase qui peut tout à fait résonner aujourd'hui chez ceux qui doutent. Hein. Est-ce qu'on y est allé ou pas sur la Lune? On a tout un pan de doute autour de cette question-là. Et c'est... la femme du dictateur roumain, Elena Ceaușescu, qui à un moment dit, mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'ils y sont allés? Et vous m'avez offert une phrase extraordinaire, c'est « Même les Russes n'ont pas douté ». Et s'il y avait un doute, ils auraient été les premiers à dire « Bah non, ils n'y sont pas allés ».
Oui, tout à fait. Les Russes qui avaient des armées d'espions. Hein. La guerre froide, c'était l'âge d'or de l'espionnage. Je pense qu'il y a eu plus d'espions pendant les 40 années de guerre froide que pendant le reste de l'histoire de l'humanité réunie. La plupart de ces espions étaient soviétiques et la plupart des espions soviétiques étaient aux États-Unis. Donc, évidemment, dans cette course, ils utilisaient aussi cette arme, cette course à la Lune. Et ils étaient parfaitement au courant de tous les détails des missions Apollo. Ils avaient aussi toutes les connaissances scientifiques puisqu'ils étaient eux-mêmes dans la course pour savoir si c'était du flan ou de la réalité.
Et donc, et ils n'ont jamais dit que c'était du flan.
Ils n'en ont jamais douté.
Ouais.
La réflexion d'Elena Ceaușescu, elle est un peu... Elle n'est pas courante à l'époque. Les doutes sont venus beaucoup plus tard, quelques années plus tard, suite à un premier livre qui est sorti là-dessus, en 1976, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, ça s'est diffusé grâce à Internet bien plus tard.
On l'a dit, c'était Kubrick qui avait filmé les images en studio. Hein.
Voilà, il y a plein de théories là-dessus. Mais à l'époque, tout le monde y croyait. Donc, à part quelques personnes très isolées, personne n'avait de doute sur la réalité de ces missions. À chaque décollage, 500 000 de personnes étaient à Cap Kennedy pour voir décoller cette fusée de 3000 tonnes. Et je veux dire, c'était très réel pour les gens quand même.
Alors, vous le dites, à un moment donné, hein, il fallait être extrêmement pointu, il fallait être à la fois évidemment en très bonne forme physique, mais aussi scientifiquement compétent. Puis il fallait être un peu taré aussi pour y aller. Hein.
Oui, c'était...
Vous ne dites pas taré, vous dites inconscient, je crois, à un moment donné. Mais
c'était, oui, il faut...
Courageux et inconscient.
Il faut un peu d'inconscience. Une fusée, c'est une bombe volante. Hein. La fusée, c'est pratiquement 3000 tonnes de carburant qui ne demande qu'à exploser. Faut vraiment avoir du courage pour y aller. Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, disait « On a une chance sur trois de réussir notre mission et on a deux chances sur trois de rentrer vivant ». Et Neil Armstrong était probablement la personne la moins émotive de tout le programme spatial. C'était quelqu'un extrêmement froid. Et que lui dise « Voilà, j'ai une chance sur trois de ne pas revenir », c'est quand même... ça montre l'étendue des risques que les gens devaient subir.
Bon, pourquoi ça s'est arrêté, ce programme Apollo? Vous l'expliquez dans le livre.
Ça s'est arrêté parce que c'est très cher. C'est plusieurs pourcents du PIB américain pendant 10 ans. 500 000 personnes qui travaillaient sur le projet. Et les Américains n'arrivaient plus à payer en même temps la guerre du Vietnam et la course à la Lune. Donc ils ont choisi d'arrêter les missions lunaires, ce qui est pas forcément...
Ils pouvaient arrêter tout seul, hein, parce que la guerre du Vietnam, ils ont voulu l'arrêter pendant un certain temps avant que ça s'arrête, effectivement.
Ouais, c'était plus compliqué, la guerre du Vietnam, effectivement. On va beaucoup dans l'espace aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que les astronautes aujourd'hui vont à la station spatiale qui se trouve à 450 km d'altitude. La Lune, c'est 1000 fois plus loin. On est dans un autre paradigme, c'est une difficulté qui est bien plus extrême. On s'en rend compte aujourd'hui avec l'émission Artemis, hein, le retour d'êtres humains sur la Lune, qui était prévu en 2023, maintenant c'est 2024, 2025. On se rend compte que c'est retourner, refaire ce qu'on a déjà fait il y a plus d'un demi-siècle en arrière, ça reste extrêmement difficile, extrêmement compliqué.
Y compris aujourd'hui, hein, ouais.
Y compris aujourd'hui, on pense qu'on a fait d'énormes programmes.
Et puis aujourd'hui, on se demande s'il faut y aller. Hein. Au XXe siècle, on était dans l'épopée, c'est ce que je disais. On était dans cette course à la Lune. Et pas que des bonnes raisons. Hein. On a bien compris que c'était un conflit politique aussi d'y aller ou pas. Aujourd'hui, il y a évidemment un tout autre sens avec 3000 tonnes de carburant qu'on grille en quelques secondes. Ça ne serait pas très populaire. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, ça pose des questions. Déjà à l'époque, on se disait, est-ce que ça vaut la peine d'envoyer des gens sur la Lune, on pourrait envoyer des robots. C'est ce qu'on a fait sur Mars. Hein. Sur Mars, on a des robots depuis des années qui font un super travail. Est-ce que ça vaut la peine de faire des efforts gigantesques pour envoyer des hommes sur Mars? Avant Mars, on va d'abord retourner sur la Lune. Le programme est en route. Hein. On a juste un peu de retard, mais le programme est en route. J'ai aucun doute que d'ici 2 ans, 3 ans au pire, des êtres humains vont à nouveau marcher sur la Lune.
Et tout le monde va s'en foutre.
Bah, ce sera très spectaculaire.
Non, pas vous. Hein. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Ça fera pas le, ça fera pas le début du quart de l'impression que ça a fait la première fois.
Alors oui,
on est sur-documenté, on est sur-informé.
On n'est plus dans l'exploit, on n'est plus dans le même exploit que la première fois. On n'est plus dans cette course qui a été gagnée de justesse. Hein. Le délai a été tenu de justesse. La course a été gagnée assez facilement contre les soviétiques qui n'ont jamais pu faire décoller leur fusée lunaire ou la faire décoller sans qu'elle explose. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là. Par contre, on aura des images en haute définition, en direct et tout. Ça va être extrêmement spectaculaire. C'est un voyage de toute beauté. J'essaie de le rendre un petit peu dans le livre. C'est un voyage de toute beauté qui est très surprenant. Et je pense que tout le monde aura beaucoup de plaisir à suivre ça sur les écrans.
Il nous reste quelques minutes. Il y a un personnage central dans cette période, et il l'est aussi dans votre livre, c'est Henry Kissinger. Alors, maître incontesté de la diplomatie de cette période-là, de l'histoire, l'artisan de l'équilibre de la terreur, en somme, hein, et de la paix est-ouest qui était son objectif. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'il représente, ce Kissinger, pour vous ?
Alors, c'était effectivement un homme clé de cette période, et c'était assez logique de le mettre en avant dans cette situation. Il était conseiller à la sécurité nationale, donc c'était un peu le bras droit de Nixon, même si des fois leur entente n'était pas toujours parfaite. Effectivement, dans un cadre où l'Amérique est agressée, c'était à lui de jouer un des rôles prépondérants.
Le cadre de votre livre, donc. Hein.
Ouais. Tout à fait, oui. Ouais. Et effectivement, c'est un personnage clé. C'est un personnage qui est très controversé, hein, puisque
quand il est mort, on s'est souvenu, hein, de l'Amérique du Sud, notamment, hein, au nom du jeu global, du jeu planétaire est-ouest, et de ce coup d'échec lointain, on va dire, qui est dominé dans ce jeu-là. L'Amérique du Sud a été sacrifiée.
Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui avait. Qui a inventé en fait la réelle politique, c'est-à-dire d'avoir un objectif qui était plus ou moins celui de stopper la guerre froide, d'éviter en tout cas qu'elle dégénère, mais si possible de la stopper, et ceci au prix de renoncement à des principes démocratiques.
Bah, le prix, c'est Pinochet au Chili, c'est beaucoup de pays d'Amérique du Sud justement qui ont été brutalement stoppés dans leur velléité démocratique. On ne sait pas forcément où elles seraient allées, ces velléités-là, mais enfin il y avait cet aspect-là de l'histoire. C'est très passionnant, en tout cas, de lire ce livre Opération Eclipse. Vous avez une écriture clinique, hein, sur les événements, à la fois ceux qui ont existé et ceux que vous inventez. C'est paru aux éditions Slatkin. Et il me reste à vous remercier, Pierre-André Truffert.
Merci à vous.